France Musique.
You got it. Got the white. Got the white. Got the white.
Zeitmöglich. Zeitmöglich. Kommen nicht zu spät. Kommen nicht zu spät. Kommen nicht zu spät.
Pleine voix, bonjour. Il y a 15 jours, j'avais eu la chance de recevoir dans notre studio à Radio France deux chanteuses, Sabine Devielle et Hélène Golgevit, pour parler d'une relation très particulière, peu connue pour vous auditeurs, nouée entre une chanteuse en carrière, lancée dans une carrière ô combien rayonnante, brillante et tout à fait prometteuse qui est celle de Sabine Devielle, et le travail qu'elle continue à mener dans l'intimité en fait d'un échange artistique et d'un dialogue permanent et continué avec une professeure de chant qui est Hélène Golgevit, qui enseigne au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il y a 15 jours donc, on est revenu sur le travail fin, comment est-ce qu'on aborde un rôle. On y renonce parfois aussi parce qu'on n'est peut-être pas encore prêt et qu'une voix, elle doit aussi grandir doucement et avec intelligence. On a eu envie de poursuivre cet échange, toutes les trois. Donc bonjour de nouveau Hélène et bonjour Sabine.
Bonjour.
Merci d'être de nouveau parmi nous pour revenir aussi sur un travail plus spécifique qui est de l'accompagnement en quelque sorte avant la direction artistique que peut mener le directeur artistique d'une maison de disques. Le travail en amont pour préparer un rôle dans l'optique d'un enregistrement discographique et revenir donc sur ce très très beau coffret sorti l'année dernière autour de Mozart et de sa relation avec les trois sœurs Weber, et notamment autour d'un enregistrement d'un air de Mozart, Nehmt meinen Dank, qui a demandé un travail particulier à Sabine Devielle, et on avait envie de revenir un peu sur le travail que vous aviez pu faire toutes les deux. Hélène Golgevit, comment ça s'était passé? Comment ça se passe concrètement d'ailleurs? Vous êtes à la table?
Sabine m'appelle, elle me dit « Hélène, je voudrais voir quelques petits points avec toi » sur lesquelles elle va être encore peut-être insécure, ou en tout cas, elle a besoin de faire des choix, je pense, en fonction de ce qu'elle va vouloir exprimer. Et donc, on a un réglage de confort vocal à faire.
Oui, c'est complètement le confort qui nous guide. Et parfois, en tant qu'artiste, on a beau connaître notre instrument comme notre poche, on ne sait plus comment faire pour se sentir confortable, même dans un répertoire qui est le nôtre et qui nous est familier. Et c'est le moment où on a besoin de l'oreille extérieure, spécialiste du professeur de chant, du coach, et puis de l'ami que représente cette Hélène qui est là toujours quand je l'appelle. Et qui
n'a pas été votre professeur à proprement parler quand vous étiez au conservatoire.
Non, pas au conservatoire.
Hélène n'était pas encore, vous savez, vous n'étiez
pas encore
au conservatoire.
Nommée. Ouais. Mais c'est vrai que l'importance de cette relation de travail et d'écoute, finalement, prend de plus en plus de place. Et je pense que pour l'exercice qui est tellement particulier, qui est celui de l'enregistrement, on a besoin de faire des réglages encore plus sûr. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur le live et sur l'interaction avec le public, sur l'adrénaline, sur l'envie du moment. On doit fixer des choses. Fixer des choses aussi pour pouvoir les refaire sur la prise 32, la prise 33, la prise 34. Faire et refaire pour que le deuxième corps ait réussi son fa dièse, pour que nous, on soit content de la diction au même moment qu'on est content du soutien. Et c'est vrai que ces réglages techniques-là, avant, en préparation d'un disque, sont vraiment cruciaux.
Évidemment, on se retrouve autour d'un piano et on va aborder ces endroits très précis, parce que Sabine est quelqu'un de merveilleux et d'une finesse extraordinaire, et donc elle sait ce qu'elle veut déjà. Il y a un intime dans le rapport, de toute façon, d'un professeur de chant avec un chanteur à tous les niveaux. Et je pense que depuis ces années où on se connaît, j'entends la voix de Sabine évoluer, j'entends les chemins qu'elle prend. On sait là où on doit faire attention Et je pense que c'est ce fil rouge un petit peu du temps aussi qui compte.
Peut-être que j'ai envie de vous proposer qu'on écoute tout d'abord cette aire de concert et puis ensuite on pourrait peut-être le commenter en direct sur les points justement qui pouvaient poser problème et comment vous les avez dénoués. Donc on va tout d'abord entendre donc Nehmt meinen Dank de Mozart, interprété par Sabine Devielle, accompagnée par l'ensemble Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon. Nehmt meinen Dank de Mozart, acceptez ma gratitude, gracieux mécène, cette œuvre enregistrée par l'ensemble Pygmalion, dirigée par Raphaël Pichon, extrait d'un très très beau coffret sorti l'année dernière, The Weber Sisters, on pourrait dire les sœurs Weber, mais vous avez choisi l'anglais, qui a obtenu donc beaucoup de prix, des victoires de la musique notamment, et évidemment à se procurer dans toute bonne discothèque du mélomane. Voici donc cet enregistrement qu'on a écouté en studio là, avec Hélène Goljevit et Sabine Devielle qui interprètent donc cette aire de concert. Et on va réécouter l'œuvre, peut-être, si vous voulez bien. Et vous allez nous dire un peu quels étaient les points d'achoppement, là où vous avez travaillé plus précisément, comment les choses se placent aussi avec l'accompagnement musical.
Oui, je pense que, vu comme ça, pour une première écoute, finalement, c'est pas l'un des airs les plus difficiles techniquement. C'est pas un air qui représente un gros challenge vocal par rapport à tous les airs de concert de Mozart, pour Aloysia notamment, qui sont des monstres de technicité. Mais finalement, ça fait partie des airs que j'ai le plus travaillé avec Hélène, parce que justement, c'était une qualité presque instrumentale de la voix qui était demandée dans cet air, à la fois instrumentale et à la fois très bavarde, avec ce petit texte de remerciement que Mozart a écrit pour Aloysia, pour qu'elle remercie ses mécènes avant de partir en tournée. Donc c'est une petite lettre d'adieu extrêmement simple. Aloysia dit « Moi, je pourrais, comme les hommes, chanter ça à pleine voix pour vous dire merci, mais moi qui ne suis qu'une petite femme, non, je ne vais pas le faire. » Et finalement, elle joue de ses charmes pour faire passer son message. Donc c'est vrai qu'avec Hélène, je lui ai exprimé mon besoin de vraiment remettre à plat cet air et de garder une qualité vocale qui était la mienne à ce moment-là, au moment de l'enregistrement, malgré le texte et la ligne instrumentale. Voilà, ce dialogue avec les vents sous-entend que la soprano se place comme un instrument au milieu des vents. Et c'est finalement très difficile, surtout pour une violoncelliste, on en parlait il y a 15 jours, de sortir de son rôle d'instrumentiste et de reprendre son ampleur de chanteuse. Et
oui, vous qui étiez violoncelliste au tout début.
Exactement.
C'est une musicale.
Il y a une écriture extrêmement ciselée pour la voix. Donc c'est là que se pose le problème du texte. Et comment on équilibre ce rapport consonne-voyelle pour garder de la brillance tout le temps, en fait.
Oui, c'est ça.
Ne pas subir les consonnes, en fait. C'est souvent l'obstacle, le problème du chanteur. Hein, dire, oh, mais là, j'ai des consonnes, je suis embêtée avec. Ben, non.
Il ne faut pas qu'elle vienne rompre la ligne mélodique.
Hein, oui, c'est ça. Tout à fait. Mmh. Elle doit être dans la ligne.
Mmh. Et en allemand, elles sont extrêmement importantes, ces consonnes. Et elles racontent aussi l'affect. Mmh. Et une consonne bien placée fait passer beaucoup de choses.
Mmh. Et je me rappelle, effectivement, on a dû régler un certain nombre de consonnes, de places de langue exactes sur certaines consonnes. En fonction de la fréquence aussi.
Oui.
Et puis j'ai envie de dire aussi le poids. On entend là les pids et on a la même chose avec le texte. Or, un texte ne peut pas être avec un poids égal.
Oui, selon les accents toniques.
Sinon, on ne va rien comprendre et du coup, ce n'est plus vecteur d'émotion non plus. La cadence fait du bien tout d'un coup. Parce qu'elle est tout le temps dans le passage, tout le temps sur une tension d'écriture finalement.
Ouais, c'est vrai. C'est là aussi qu'on se rend compte de la légèreté de la voix d'Aloysia Weber, qui avait l'air de pouvoir vraiment faire ce qu'elle voulait dans les aigus, parce qu'on sait que Mozart écrit extrêmement bien pour chacune des voix pour lesquelles il écrit. Donc s'il a écrit ça pour Aloysia, c'est que ça devait la mettre en valeur. Donc c'est un vrai challenge de raconter cette petite fable et cette petite lettre de remerciement avec une tessiture qui est effectivement celle du passage et beaucoup de petites consonnes qui peuvent paraître embêtantes.
C'est le paradoxe de tout chanteur, c'est d'essayer de retrouver la vocalité de la créatrice du rôle finalement, parce qu'il a écrit pour elle, donc avec ses facilités et peut-être ses failles aussi.
Oui.
Et ce ne sont pas les mêmes que les tiennes. Donc à un moment donné, on a besoin de rendre la voix encore plus malléable.
C'est vrai.
C'est très joli, Sabine et Hélène, de vous entendre dans cette écoute et ce ciselage très fort. Et vous l'évoquiez, Sabine de Vielle, que pour un enregistrement, il faut peut-être encore plus fixer les choses pour se préparer justement à ce travail avec effectivement parfois des nouvelles prises et garder la même énergie. Mais autre chose aussi, l'inverse est vrai sur scène, j'imagine, quand
par les acoustiques de salle, par le mouvement même de la scénographie, vous pouvez être amené aussi à être fragilisé dans cette conduite-là de la ligne vocale. Et il peut y avoir des micro-déplacements qui s'opèrent dans la voix. Et là aussi, j'imagine, Hélène Golgévite, vous pouvez établir dans le dialogue avec Sabine Devielle un échange qui vous permet de replacer des choses, parce que est-ce que en tant que chanteuse on a toujours conscience que quelque chose se déplace, parce que quand on peut être mal à l'aise dans une acoustique difficile, un peu
on sent le malaise, ça c'est sûr, mais on a du mal à percevoir d'où vient ce malaise. Et souvent, le rôle d'Hélène, qui part de ce qu'elle a entendu en cours, qui vient observer une répétition et qui peut venir voir une représentation, c'est de jauger où se place la progression et où se place la régression. Parce que on passe notre temps à régresser en tant que chanteur. C'est vrai.
C'est dur.
Non, mais c'est vrai. On arrive avec un travail qu'on a l'impression de proposer abouti.
Très abouti.
Pour une première musicale. Donc, on met notre belle tenue, on arrive devant le chef, on est chauffé à fond, on rencontre nos collègues. On propose ce qu'on a à proposer. Tout est remis en question par la vision du chef d'orchestre d'abord.
Tout d'abord, oui.
Ensuite, du metteur en scène. On s'acclimate à l'acoustique d'une salle de répétition, et puis on arrive sur le plateau, et ensuite l'orchestre arrive. Et en fait, ces espèces de phénomènes de dépressurisation, on a besoin de les aborder.
Je comprends mieux l'idée que tu voulais évoquer. Oui,
la régression,
elle est à ce moment-là, en fait.
C'est-à-dire oui, c'est ça. C'est qu'on est toujours.
Ou en tout cas, la déstabilisation.
Voilà, on est toujours remis en question.
C'est ce que j'appelle être soumis à la météo.
Ouais, c'est ça.
Et est-ce qu'il y a une plus grande fragilité du chanteur par rapport à un instrumentiste, justement, pour s'adapter au desiderata du chef d'orchestre, qui peut avoir l'envie, par exemple, d'un tempi beaucoup plus étiré que ce que vous aviez fait au départ, donc ça modifie complètement votre geste vocal. Quelle est votre adaptabilité à ces désirs-là?
Elle doit être relative. Je pense que si on est sur un plateau, c'est notre personnalité artistique qui est intéressante. En général, le chef donne son accord pour une distribution. Donc, on arrive en se connaissant, en tout cas un petit peu, musicalement. Au moment des premières répétitions, le rôle du chanteur et celui du chef d'orchestre, c'est peut-être d'amener l'autre un peu plus vers soi. Mais il y a quand même un point de non-retour. C'est-à-dire qu'on est tout à fait malléable, on est disposé à travailler, mais on finit par toujours chanter avec notre instrument, avec notre voix. Il y a des tempi qui sont complètement impossibles pour mon instrument, notamment un tempo très très lent sur je ne sais quoi. Donc voilà, on est malléable, on doit être disposé à avoir le bagage technique qui nous permette d'être prêt à répondre au mieux possible aux désidératés du metteur en scène et du chef d'orchestre surtout. Mais voilà, on reste humain et on a des limites.
D'où le confort de chanter sur scène avec des chefs d'orchestre qu'on connaît bien. C'était le cas des Arflo, c'est le cas aussi des musiciens du Louvre avec Minkowski, puisque vous avez beaucoup chanté avec lui. Je vous propose qu'on entende justement une représentation d'opéra. C'était en janvier 2015. L'enregistrement avait été effectué quelques semaines avant. C'était à l'Opéra Comique pour une soirée de Noël. Et on va entendre un extrait de La Chauve-Souris en français. L'air d'Adèle, Si j'ai du talent.
Si la envie de m'embrasser
Un extrait de La Chauve-souris de Johann Strauss en français, l'air d'Adèle, Si j'ai du talent, interprété par Sabine de Vielle et les musiciens et le chœur du Louvre Grenoble, dirigé par Marc Minkowski, avec un très beau plateau, hein, Sabine de Vielle. Il y avait Stéphane Degout, Franck Le Guérinel. Comment s'est passée cette production à l'Opéra
Comique ? Ah, je me suis bien amusée. Là, sur cette scène, j'étais donc avec Franck Le Guérinel. Je lui taillais la barbe en direct, donc c'était très sympathique, en chantant. Et puis, il y avait la jeune Jodie DeVos, qui est devenue une amie depuis, qui est une formidable soprano, qui était à la fois... la jeune Ida, l'amie d'Adèle, qui part dans ses délires de jeune soubrette, la sœur d'Adèle même, et puis qui était aussi ma doublure pour ce rôle d'Adèle. Et d'ailleurs, je me permets de la féliciter parce que j'ai été malade pendant ces représentations de La Chauve-souris et Jodie DeVos a sauté dans mes chaussures et elle a été formidable. Donc ça me rappelle de très bons souvenirs d'entendre cette petite scène de La Chauve-souris.
Et comment vous vous sentiez dans cette acoustique justement de la salle Favart, parce qu'on a à Paris, trois salles avec des configurations acoustiques extrêmement différentes entre Favart, Garnier et maintenant l'Opéra Bastille. Comment vous, justement, soprano léger, vous vous positionnez par rapport à ces salles-là ?
Autant vous dire que de chanter un répertoire d'opéra comique à l'Opéra Comique, c'est l'idéal. On parlait il y a 15 jours de l'ACMÉ, qui donc a été créé à l'Opéra Comique. Pour La Chauve-souris, c'est un opéra viennois qui n'a pas été créé là-bas, mais la texture voix légère, orchestre dans une salle comme celle de la salle Favart est idéale. Pour cette chauve-souris, on avait du texte parlé. D'ailleurs, on en avait beaucoup parlé avec Hélène, parce que c'est un vrai défi pour, je pense, surtout pour les femmes, de placer la voix de façon assez volumineuse pour se faire percevoir du public, et puis ne pas se fatiguer. Mmh. Et ça, c'est très difficile. Autant à l'Opéra Bastille, on a forcément un petit micro pour parler, autant à l'Opéra Comique, il n'est pas question de se faire amplifier, puisque les dimensions de la salle ne le demandent pas. Mais c'est, je vous assure que ça fait partie des grands challenge d'une carrière, de réussir à trouver une façon de parler sainement et de se faire entendre dans une salle d'opéra, même à l'Opéra Comique qui est plutôt petit.
Il n'y a pas plus fatigant que de passer de la voix parlée à la voix chantée en permanence. Et si on ne cherche pas, ça avait été le cas pour cette chauve-souris, tu avais trouvé une place de voix parlée qui te permettait d'être suffisamment sonore et puis du coup qui donnait un caractère extrêmement drôle à ton personnage.
J'étais même partie du caractère d'Adèle et de sa gouaille un peu parisienne pour placer le truc un peu dans le nez.
Mais il va peut-être nous parfois on a des voix comme ça d'opérette où on a des...
Je pouvais pas faire la cocotte pour Adèle. Mais bon, c'est vrai que cette gouaille m'a sauvée parce que je me suis servi des résonateurs du nez pour avoir un peu de volume. Et finalement, je me suis beaucoup moins fatiguée que ce que j'aurais pu. J'ai pas tiré sur l'instrument.
Et pour certaines prises de rôle, est-ce que vous pouvez être amené en tant que chanteur à refuser de le faire dans une trop grande salle et d'avoir envie d'expérimenter d'abord ce rôle-là dans des salles à dimension plus humaine ou en tout cas...
Oui. J'ai un exemple très concret. L'année dernière, j'ai interprété ma première Mélisande avec Jean-Claude Malgoire encore. Et c'était donc à l'Opéra de Tourcoing, qui est un petit théâtre charmant avec une très belle acoustique. D'ailleurs, j'engage tout un chacun à aller voir une représentation à Tourcoing. C'est vraiment un très joli endroit, très agréable et à dimension vraiment humaine. C'est tout à fait les dimensions de l'Opéra Comique finalement. Et je peux affirmer que là où j'ai pris du plaisir à découvrir le fameux médium de ma voix dans ce rôle de Mélisande dans cette salle, je sais que je n'aurais pas ce plaisir dans une grande salle. Donc j'ai refusé le rôle de Mélisande à la suite de ses représentations à Tourcoing dans plusieurs endroits qui, selon moi, étaient vraiment beaucoup trop grands et qui tiraient Debussy vers Wagner, ce que je comprends tout à fait parce que c'est aussi l'essence de sa musique. Mais en ce qui me concerne, moi, et avec mon instrument, j'ai besoin de le tirer vers ses origines de l'opéra comique et de remettre Mélisande chez Maeterlinck plus que chez le debussiste wagnérien.
C'est ça, oui, dans un espace plus resserré. Est-ce que vous avez chanté à la Philharmonie de Berlin ? comment ça s'est passé, cette rencontre avec une nouvelle salle qu'a constituée l'ouverture de la Philharmonie de Paris.
Alors, je ne connais pas la Philharmonie de Berlin. Je connais certaines acoustiques allemandes qui semblent s'en rapprocher. En revanche, en ce qui concerne la Philharmonie de Paris, j'ai d'abord eu une première approche de cette acoustique au mois de janvier de l'année dernière pour l'inauguration de cette salle. Donc c'était un grand honneur pour moi d'être là et je chantais le petit Pille Jesu du Requiem de Forêt. Donc toute seule avec un orgue. Alors on peut se dire toute seule dans une grande salle avec un orgue, et ben non, finalement c'était extrêmement flatteur parce que les harmoniques aiguës de la voix pouvaient se promener dans le grand espace de la Philharmonie. J'avais eu un excellent premier contact avec la salle. Ensuite, j'ai entendu dire que les voix étaient très difficiles à entendre dans cette acoustique, surtout pour certaines positions, enfin certaines places, puisque c'est une salle avec du public tout autour du plateau. Donc je me faisais un petit peu un sang d'encre à l'idée de donner le programme de Mozart et les sœurs Weber à la Philharmonie en décembre dernier. Et finalement, ils ont une géométrie variable du plateau qui permet de pousser la scène contre un des murs de la Philharmonie. Et donc, le public est uniquement devant nous.
Et devant et sur les côtés.
Et un petit peu sur les côtés, ouais.
Donc c'est ce qui n'est pas assez logique. Nous voit quand même projette devant. Donc, on peut supposer qu'un public derrière ne va pas forcément avoir une écoute optimale.
Il y avait, je me rappelle, les répétitions et comment la voix se posait sur l'acoustique où tu pouvais faire absolument ce que tu voulais puisqu'on venait de le travailler juste avant sur certains petits points de détail.
Ouais.
J'avais l'impression que c'était vraiment un tapis vocal.
Ouais, c'était un beau concert.
Ouais. Une acoustique dans laquelle on n'a jamais à aller au-delà.
Exactement.
Enfin, je pense que c'est ce que tu avais ressenti à ce moment-là.
Hein. Complètement.
Récital Mozart avec l'ensemble Pygmalion, c'était dans la grande salle de la Philharmonie de Paris en décembre dernier, le 14 décembre 2015. Sabine Devielle, vous interprétiez Voreille Pigardi Odio, donc cette aire de concert que vous aviez travaillé avec Hélène Goljevit, vous l'aviez préparée ensemble.
Oui, oui, ça fait partie des grands moments de bravoure pour une soprano coloratour qui s'intéresse à Mozart. Donc c'est vrai que c'est un passage obligé, cette aire, j'ai l'impression, et ça fait partie de mes morceaux favoris depuis de nombreuses années. Et c'est amusant de le reprendre régulièrement avec Hélène et de trouver que mon approche a évolué, ma voix a évolué sur cette aire. Et on en parlait pendant l'écoute, c'est vrai qu'il y a des petits ajustements qui arrivent au fur et à mesure, et même encore aujourd'hui en entendant et le disque et ce live, évidemment j'ai envie de le faire différemment, mais je pense que c'est normal.
Oui, mais on parlait des acoustiques tout à l'heure, je n'oublie pas non plus quand tu l'as chanté pour les Victoires de la Musique, dans des conditions absolument épouvantables, pardon de le dire, mais pour toi c'était redoutable, le chef était très loin derrière toi, tu n'avais pas de retour et tu as fait une version juste exceptionnelle de ce Vorrei Spiegarvi, enfin dans des conditions du direct, c'est ce on commentait là celui-ci où tu disais ben c'est pas la même chose de l'enregistrer et de le chanter dans un programme où on sait qu'on doit aussi gérer sa voix sur
tout un programme. Ouais. C'est vrai qu'on a une tendance saine à se ménager quand on travaille dans les premiers filages d'un programme de récital, même dans les premiers filages d'un opéra. Le plus grand piège, c'est celui de l'endurance et de garder toujours la fraîcheur jusqu'à la fin. On ne peut pas sortir de scène en étant épuisé. On peut être épuisé physiquement, corporellement, mais la voix doit être encore très fraîche. Et c'est vrai que pour ça, il faut savoir s'économiser. Et je sais que dans ce récital de la Philharmonie, le Vorrei Spiegarvi arrivait très tôt. Et j'essayais un petit peu de retenir les chiens. Donc voilà.
Et c'est là qu'on entend l'évolution aussi, ce dont on parlait dans la précédente émission sur les pianis Joker. Ben là, il n'y en a plus. Et donc, ça donne une émotion absolument merveilleuse, une autre couleur. Elle vient nous toucher tout à fait autrement, parce que déjà, dans son instrument, elle est arrivée à un niveau d'harmonisation qui permet ça.
En fait. Donc c'est un rapport, si je comprends bien, à la fois entre ce que vous disiez, Hélène Goljevitch, ce rapport d'harmonisation intérieure, donc d'adéquation, d'ajustement plus fin de son propre instrument, et puis le rapport à la salle et la capacité que l'on peut avoir, même dans des salles très inconfortables, c'est acoustique, donc pour les victoires de la musique dont vous parliez, Hélène, quand même à se créer un espace confortable de voix. Comment est-ce que ça se travaille, Hélène Sao, avec vos jeunes élèves au conservatoire? Comment vous procédez?
Ce sont deux questions qui sont intimement liées. Cette harmonisation dont je parle là, c'est vraiment ce qu'on appelle l'harmonisation des diaphragmes. Donc périnée, diaphragme, voile du palais, déjà pour ne citer que ces deux-là.
Un terme un peu technique pour les auditeurs.
Et donc la confiance dans son geste pour avoir toujours cette élasticité au niveau de la peau jovocale. Et c'est une condition indispensable au placement de la voix parlée. Déjà, il y a un travail qu'on peut faire au niveau de la voix parlée dans une salle de classe. Donc je m'amuse quand on change de salle et de dimension avec une image que m'avait donnée un des professeurs que j'ai eus en Italie, qui s'appelait Roberto Caverni. Et il nous disait, vous arrivez dans une salle, vous devez prendre vos oreilles et les mettre sur les murs. Et du coup, vous allez écouter le retour du son et non pas l'émission avec l'oreille interne. Donc, dissocier justement l'écoute au niveau du cerveau. Et c'est là qu'on va pouvoir tout de suite parler dans une place qui ne nous fatigue absolument pas, qui n'a rien à voir là avec notre voix conversationnelle, mais qui n'est pas non plus cette petite voix placée comme ceci. Donc voilà, d'aller travailler ce placement-là, tout de suite on a un autre rapport à l'acoustique. Et après on s'entraîne à faire exactement la même chose sur un son. Bon, c'est là qu'on va arriver à travailler, à développer le singing formant. Et donc la puissance...
Le moment du chanteur, donc le moment de passage,
voilà,
effectivement.
Le moment du passage au-dessus de l'orchestre. Et qui est donc quelque chose de très facile à faire, j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose de très élastique.
Oui, mais pour vous, ça vous demande en tant que chanteur, j'imagine, d'avoir déjà un peu de temps pour expérimenter la salle, salle vide, salle pleine, et ça c'est quand même pas très courant d'avoir la salle pleine quand on est en répétition, et que ça doit bouger un petit peu.
Oui, c'est un temps qu'on n'a pas, donc c'est pour ça qu'on doit arriver avec notre besace pleine de bons outils pour réagir.
Une adaptabilité.
Voilà. En deux, trois mesures,
oui,
quoi.
Absolument.
Et est-ce que dans le milieu musical, alors c'est une question peut-être un peu naïve, mais est-ce que dans le milieu des chanteurs, vous passez des trucs, enfin genre, alors là, dans cette salle, là, fais gaffe, chante
ouais,
plutôt sur le balcon de gauche, tu verras, la voix projettera mieux.
Heureusement, c'est assez rare, les acoustiques qui sont excellentes sur un point et très mauvaises sur tout le reste.
D'accord.
Ça, c'est très, très rare. Par contre, des salles qui ont un point assez flatteur, je crois savoir qu'il y en a plusieurs.
et même en France. Et on se passe le mot entre amis.
Et c'est vrai qu'on n'hésite pas à se passer le mot. Ou alors on va s'écouter les uns les autres. Quand on n'a pas la clé, il suffit juste d'aller dans le public et de s'écouter.
On change de salle, toujours à Paris, Théâtre des Champs-Élysées. Un extrait de Mithridate.
Yeah!
C'était la production de Mithridate au Théâtre des Champs-Élysées en février 2016, un enregistrement donc très récent, Sabine Devielle, avec le concert d'Astrée dirigé par Emmanuel Haïm, et puis un plateau conséquent pour vous, une jeune artiste avec des chanteurs que vous aimiez, que vous admirez. Comment est-ce qu'on s'intègre justement dans une production comme celle-là ?
Bah d'abord avec beaucoup d'envie, beaucoup de fierté d'être distribuée à côté d'artistes qu'on écoutait au disque, qu'on allait voir en scène. Je pense à Patricia Petitbon qui fait partie des grandes interprètes qu'on a aujourd'hui en France et que j'admire vraiment beaucoup, autant pour ses capacités vocales que théâtrales. C'est une personnalité débordante de générosité sur scène et aussi en salle de répétition. Donc j'étais très impressionnée d'arriver le premier jour des répétitions. Je me suis fait un monde de cette première répétition parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je vais faire là? Comme quoi, on n'est jamais à l'abri du doute. Mmh. Et en fait, une fois qu'on rencontre les personnes qui sont derrière ces artistes, je pense donc à Patricia Petitbon, mais aussi à Emmanuel Haïm, qui est une femme d'une gentillesse sans fond. Mmh. Michael Spyrus aussi, le ténor qui interprétait Mithridate, pour lequel je fonds littéralement, musicalement, c'est vraiment un monstre sacré pour moi. Christophe Dumeau, qui est un excellent contre-ténor, Cyril Dubois, qui est mon ami. Enfin, je me sentais entourée de grands. Et finalement, ce doute qu'on peut avoir au début des répétitions, il faut le transformer en une énergie et en une envie de donner plus et de monter sur scène avec eux, et pas seulement de rester spectateur. Donc, ça peut être porteur d'une belle énergie, mais il faut savoir contrôler ce doute.
Les productions de l'opéra au Théâtre des Champs-Élysées sont réputées pour être des productions qui prennent un peu le temps. Enfin, dans cette économie du spectacle lyrique, aujourd'hui, on a toujours moins de temps, tout est plus contraint. Il y a quand même aussi ce souci quand même de garder du temps de répétition. Est-ce que ces moments de répétition sur le plateau vous ont permis de recréer justement cet espace de la troupe où on fait de la musique ensemble, ce qu'on ne retrouve pas toujours dans certaines grosses productions où les chanteurs ont peu de temps en fait pour
oui, c'est vrai.
Apprendre à se connaître. Comment, pour c'était, le coup,
c'était
quel type
très confortable, ouais, oui, ouais. Notamment dans tout ce qui est le travail du récitatif avec Benoît Artoin, qui était à la fois chef de chant et claveciniste dans la fosse au moment des représentations, avec Emmanuel Haïm, bien sûr, qui a une force de proposition énorme sur tout ce travail musical d'interprétation du récitatif et de chacun des rôles. Et puis avec Clément Hervieux-Léger, qui est vraiment reparti, donc le metteur en scène de cette production, qui est reparti de Racine et qui nous a parlé d'un Mithridate basé sur le texte et sur le verbe. Donc on est parti du théâtre et finalement c'était un temps de répétition qui était extrêmement confortable. Ouais.
Et est-ce que sa voix peut bouger dans un échange avec justement des interprètes qu'on aime beaucoup, ou est-ce que, au contraire, c'est
intéressant comme question.
C'est
comme tout doute, il peut apporter à la fois sa force et sa faiblesse. Et c'est valable dans la vie. Hein. De toute façon, c'est pas uniquement lié au monde du chant, mais on peut se laisser impressionner par un environnement et se sentir déstabilisé. Là, ça n'a pas été le cas, mais parce que Sabine a une assise d'artiste, une assise technique aussi, mais on pourrait amener énormément de doutes, y compris sur sa technique, par des doutes à voir les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes, alors qu'ils doutent eux aussi, tout autant que nous, sous des formes différentes. Ça va s'exprimer chez chacun. Parfois, on va croire qu'un collègue froid ou arrogant, eh ben, ok, mais c'est sa protection, il fait peut-être comme il peut. Et puis, bon, heureusement, c'est pas le cas de tout le monde.
Moi, j'ai un peu l'impression que le monde du théâtre lyrique bouge un petit peu à ce niveau-là, entre une dizaine d'années où il y avait des super productions, les chanteurs arrivaient des quatre coins du monde, se parlaient à peine, et il y avait sans doute des postures aussi, voilà, et où effectivement, il n'y avait pas forcément cet échange. Aujourd'hui, on a l'impression quand même que des familles de chanteurs se créer, que vous allez vous écouter les uns les autres, vous soutenir, vous guider aussi parfois dans certaines prises de rôle. C'est quelque chose qui est important pour vous, ça, de se recréer du lien, quoi.
C'est très important, surtout que la vie des chanteurs, c'est une vie de solitude. Ouais. Et que la famille qu'on se crée sur le plateau, c'est finalement le cercle qui nous accompagnera pendant 2 mois. Et 2 mois d'une vie, c'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Donc oui, moi je garde énormément de liens amicaux avec des gens que j'ai rencontrés au conservatoire, qui sont des collègues aujourd'hui, mais avant tout des amis. Et j'ai vraiment la sensation, on parlait de la génération de Karine Dehaie aussi, de Stéphane Degout, de Stéphanie Doustrac, qui sont des gens qui sont déjà un peu plus dans le métier que moi, mais qui ont aussi cette sensation d'avoir besoin de lier des amitiés avec leurs collègues. Donc je me déclare héritière de cette génération, et avec Julie Fuchs, avec Stanislas de Barberac, Marianne Crébassa, on est tous très heureux de passer du temps en dehors de la musique et de pouvoir partager plus que nos vies de chanteurs.
Et voire même d'essayer de multiplier les productions où vous allez vous retrouver tous ensemble.
Ah oui, alors ça c'est pas facile.
Et là c'est bonheur. Oui, parce que ça c'est pas les artistes, c'est pas les chanteurs qui choisissent les
on peut être à l'origine d'une envie et d'une intention, mais malheureusement les calendriers des uns et des autres sont tellement difficiles à concilier que c'est rarement faisable. Mais en tout cas, on est en train d'ailleurs de parler d'un projet avec toute cette petite équipe que je viens de citer, donc je croise les doigts pour que ça se fasse.
France Musique sera là et posera ses micros, c'est évident si vous nous le permettez.
Je pense que tu soulèves une question qui est très importante dans la vie du chanteur, c'est la solitude. Mm-hmm. C'est peut-être une question qu'on n'aborde pas assez, en tout cas dans le cadre des études.
Ah oui, bah oui, c'est évident.
Parce qu'on voit les paillettes, j'ai envie de dire, et pas la réalité, et puis la confusion qu'on peut faire aussi entre des rencontres qu'on va faire, qui sont éphémères, mais qui sont intenses, et qui se créent aussi autour d'un projet artistique, qui sont pas forcément...
Et qui, après 2 mois, s'éteignent.
D'elles-mêmes.
Oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. La solitude, ça fait partie de la vie des chanteurs. Mmh. Mais c'est aussi un très bon moteur pour être intransigeant avec soi-même et beaucoup plus voir les siens et les gens qu'on aime.
Absolument.
Je pense que si j'étais banquière, j'appellerais moins ma grand-mère. voilà, aujourd'hui, j'ai besoin de ce contact avec ma famille, avec mes amis. Et il ne faut pas perdre ça de vue, c'est sûr, pour éviter la solitude, justement.
Ouais. Mais oui, parce que la voix est quand même quelque chose qui nous rapproche au plus près de l'humain. Merci beaucoup, Hélène Goljevite et Sabine Devielle, pour ce temps passé à nous parler au plus près et de façon très intime et très généreuse de votre art, de votre travail. Et on va se quitter avec ce très bel album Rameau que vous avez produit avec Pygmalion et Raphaël Pichon, intitulé Le Grand Théâtre de l'Amour, avec Alexis Kosenko et l'ensemble Les Ambassadeurs, avec qui vous travaillez aussi très régulièrement et avec qui vous avez noué une relation là aussi d'amitié.
Oh,
Et c'est avec le très bel album Rameau de Sabine Devielle, Le Grand Théâtre de l'Amour, et puis cet extrait d'Anna Créon, Tendre Amour, avec l'orchestre Les Ambassadeurs, dirigé par Alexis Kosenko, que se clôt cette 35e édition d'À pleine voix, mixée par Pascal Bénard et réalisée par Christine Amado, avec le concours de Françoise Monteil. Si vous avez aimé l'émission Il y a 15 jours, on avait déjà eu le plaisir de converser avec Sabine Devielle et Hélène Goljevit. C'est disponible à la réécoute ou au podcast sur le site d'À pleine voix.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.